À 24 ans, Chloé Kinsler, jeune étudiante originaire de Dijon, achève son séjour Erasmus à Prague, un séjour largement occupé par un mémoire consacré au lien entre les surréalistes tchèques et français. Juste avant son départ, elle a répondu aux questions de Colin Gruel.
Chapitre de l'histoire.
Je me suis intéressée au surréalisme tchèque parce que je voulais faire un Erasmus ici à Prague. Et du coup, avec mon directeur de mémoire, je devais trouver un sujet qui avait du lien avec Prague et avec la France. En discutant avec mon directeur, il m'a dit qu'il y avait des artistes, des poètes, des écrivains qui avaient finalement eu pas mal d'échanges avec la République tchèque depuis longtemps. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ça, pour pouvoir venir ici en Erasmus.
Et comment ça s'est passé justement votre découverte du surréalisme tchèque ? Il y a eu d'abord des auteurs qui vous ont marqué ou au-delà de cette histoire de découvrir le surréalisme tchèque par défaut entre guillemets ?
En fait au début c'était plus par les peintres, donc avec Toyen et Štýrský. Il y a eu aussi Joseph Schima, lui il était plus sur une autre branche du surréalisme en France qui est le grand jeu. Et c'est par ce biais-là que j'ai commencé à m'intéresser à la littérature après. C'est plus par la peinture et surtout par le grand jeu qui est beaucoup lié au surréalisme français. Et après je me suis rendu compte que pour écrire un mémoire, le grand jeu c'était pas... ça m'intéressait pas et puis que c'était assez restreint, donc j'ai basculé sur le surréalisme français qui ensuite m'a ouvert la porte de Toyen et Štýrský qui ensuite m'a ouvert la porte des auteurs, donc de la littérature vraiment.
Et avant de continuer, est-ce que, alors je sais que c'est pas évident, mais on pourrait resituer les grandes lignes du surréalisme, peut-être les noms connus en France et les noms que les Français connaîtraient moins, les principaux noms tchèques du surréalisme?
Oui. Alors, le chef de file du surréalisme français, c'est André Breton, avec son acolyte Paul Éluard. Le surréalisme, ça, c'est un mouvement qui débute surtout après la Première Guerre mondiale, après le dadaïsme. Et donc, c'est ouais, vraiment Breton et Éluard qui sont les têtes...
les têtes pensantes du surréalisme.
Voilà, les têtes pensantes, merci. Et bon, derrière, il y a d'autres artistes. Hein, il y a peut-être Benjamin Perret et beaucoup de peintres, parce que ce n'est pas que de la littérature. C'est aussi Dali. Il y a eu tout un développement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment à partir de ce moment-là où c'est le moment le plus important du surréalisme, quoi. En Tchécoslovaquie. Vraiment, le chef de file, ce serait Vítězslav Nezval. Mais le groupe était beaucoup plus restreint que le groupe français. Donc, autour de Vítězslav Nezval, il y avait aussi, je les ai déjà cités, mais Toyen, Štýrský, pour ce qui est de l'art visuel. Mais il y a aussi Karel Teige, qui, lui, s'intéressait plus à l'architecture. Mais il a aussi beaucoup fait des manifestes, écrit des textes justement sur l'architecture, le constructivisme, il me semble. Donc voilà, c'est un plus petit groupe et moi je m'intéresse beaucoup plus à Nezval et Breton et Éluard.
Alors vous avez dit que c'était une époque qui coïncidait avec l'entre-deux-guerres, une période aussi qui a été marquée par des échanges culturels assez riches entre la France et la Tchécoslovaquie et qui ont pris plus ou moins fin avec les accords de Munich en 1938. Alors comment ça s'est passé justement cette propagation des écrits français en Tchécoslovaquie et peut-être même et vice-versa ?
Les artistes ils avaient en Tchécoslovaquie une vraie attirance pour la France. Et pour, en tout cas, la culture française, en tout cas de ce que je vois dans mes recherches, c'est que, oui, c'était important d'avoir toute cette culture-là aussi pour créer. Et donc, Nezval, il est parti en France en 1931 avec Joseph Schima. Et ils ont fait un premier voyage en France sans rencontrer vraiment le surréalisme. Et s'est développé en Tchécoslovaquie le mouvement du poétisme, qui est très proche du surréalisme, mais qui reste différent. En fait, c'est en s'intéressant à ce qui se passe en France qu'ils se sont rendus compte voilà, que le surréalisme, finalement, était peut-être quelque chose qui leur correspondait plus, qui leur permettait d'être plus en accord avec cette envie de révolution dans l'écrit aussi, dans la création. Et donc, c'est en 1934 qu'il y a eu vraiment les premiers contacts avec les surréalistes tchèques et les surréalistes français. Mmh. Où, en fait, avec Vitesse Avnésval a écrit une lettre à Breton, et Breton l'a publiée dans une revue qui s'appelle « Le surréalisme au service de la Révolution ». Et c'est un peu ce qui a acté l'entrée dans le surréalisme du groupe tchèque.
Est-ce qu'il y a un groupe français ou tchèque qui aurait influencé l'autre, ou est-ce que ça a été une influence tout à fait mutuelle à cette époque-là?
Non, c'est plus le groupe français a plus influencé le groupe tchèque que l'inverse. En tout cas sur le début, mais je pense, il me semble pas que André Breton ou Paul Éluard avaient des vues sur la Tchécoslovaquie avant d'avoir ce premier contact avec Nezval. Et le groupe surréaliste tchèque était vraiment très impliqué dans la diffusion en fait de leurs idées. Donc il y a eu des expositions. Le groupe donc Nezval, Toyen et Štěrský, ils ont fait en sorte de faire venir en fait Breton et Éluard en 1934 pour un échange, pour que Breton puisse faire des conférences en fait en Tchécoslovaquie. Donc à Prague, mais aussi à Brno, et devant des étudiants, enfin devant différents publics. Pareil pour Éluard. Et ils ont vraiment fait en sorte que tout soit parfait pour eux, quoi. Par exemple, Breton, il n'avait pas d'argent pour venir, et il a écrit une lettre à Nezval en disant « Bon, bah, j'ai pas d'argent pour venir, j'ai besoin que ma femme, elle vienne aussi avec moi, la vie est difficile. » Enfin bon, bref. Il était un peu mégalo, je dirais. Et Nezval et tout le monde, en fait, s'est organisé pour leur envoyer l'argent, pour leur payer le trajet, pour qu'ils viennent, pour que tout soit parfaitement en place pour pouvoir voilà, leur permettre d'avoir un échange culturel avec les spectateurs. Voilà, c'était ça le mot.
Et de ce que je comprends de ce que vous me dites, finalement, l'importance du surréalisme tchèque n'enlève rien au fait que c'est en France qu'on a le véritable berceau du surréalisme, si je puis dire.
Il y a des nuances aussi. On peut dire que le surréalisme français, donc voilà, Paris, Breton, Éluard, c'est effectivement les piliers du surréalisme. Si on les enlève, peut-être que le surréalisme n'aurait pas existé. Mais d'un autre côté, il y a de vraies spécificités entre les différents groupes européens surréalistes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré le fait que, oui, le groupe surréaliste pragois, ils suivent certes, voilà, les grandes lignes du surréalisme français, il y a des vraies spécificités, des vraies caractéristiques qui font que c'est du surréalisme tchèque, et pas, enfin, tchécoslovaque, pardon, et pas du surréalisme français.
Et vous avez un exemple de ces spécificités ?
On pourrait dire que les surréalistes tchécoslovaques sont beaucoup plus positifs et beaucoup plus optimistes par rapport au surréalisme français. On peut voir un peu plus d'humour, on peut voir un peu plus d'accroche au quotidien que les Français n'ont pas du tout, quoi. C'est plus hargneux, c'est plus rageux, et c'est vrai que le surréalisme tchécoslovaque, de ce que j'ai pu en lire, c'est... Il y a beaucoup plus d'attache à la beauté du quotidien et de comment on va prendre un objet ou comment on va pouvoir s'intéresser à tout ce qui se passe dans notre environnement et essayer de donner une autre vision de celui-ci avec juste en changeant la vision le point de vue en fait. Et en France, c'était beaucoup plus abstrait. C'était des voilà, bon, on connaît l'écriture automatique, ces systèmes, ces techniques qui ont été développées un peu plus dans l'inconscient, un peu plus dans le retirement en fait du quotidien, alors que là il y a une vraie accroche au monde.
Et plus terre à terre, quoi.
Voilà, exactement.
Vous parliez tout à l'heure justement de révolution hein, surréaliste, c'est comme ça que ça a été appelé. Évidemment, c'est les années de l'entre-deux-guerres, c'est les années également d'une certaine peut-être affinité de certains intellectuels avec l'idéologie communiste. On sait que Breton a plus ou moins été aussi, hein, enfin, je veux dire, à une certaine époque peut-être tenté par ces idées-là, même s'il s'est distancé évidemment après du mouvement. Qu'en était-il justement par contre des surréalistes tchèques? Est-ce qu'ils étaient des compagnons de route du Parti communiste à l'époque?
Oui et non. C'est assez intéressant, c'est que effectivement les surréalistes français, ils ont adhéré au parti, puis très rapidement ils s'en sont désolidarisés. Mais ils gardaient quand même en eux cette envie de voilà, de révolution, de lutte des classes et compagnie. En venant en Tchécoslovaquie, il y a d'ailleurs une lettre d'Éluard qu'il envoie à Gala, qui dit Prague est un peu la porte de Moscou pour nous. Donc ils voyaient
un peu. C'est quand ça ?
C'était quand ils sont venus en Tchécoslovaquie en 35. Pour eux, c'était un peu venir en Tchécoslovaquie, c'est aussi peut-être un moyen de renouer avec cette lutte prolétarienne qu'ils avaient complètement perdue en France. Et pour les artistes tchécoslovaques, c'est beaucoup plus nuancé. Il y a une distance en fait avec le parti communiste, et que par exemple, dans toutes les décisions qui ont été prises au niveau international pour le mouvement surréaliste, il n'y a aucune signature d'artiste surréaliste tchèque sur tout ce qui est autour des questions politiques, en fait. Il y avait vraiment une distance et une crainte de peut-être donner son avis aussi. Et par exemple, à partir du moment où Nezval a décidé d'offrir sa création, d'offrir son art au profit de la lutte communiste, le reste du groupe a complètement coupé avec lui, et le groupe surréaliste tchécoslovaque a continué à vivre sans Nezval, qui lui était parti vers d'autres horizons, malheureusement pour lui.
Plus elle a devenu un artiste
politisé, quoi.
Politisé. C'est intéressant ce que vous dites sur Éluard, parce que c'est quand même en 35, il n'y a pas encore eu le coup de Prague, hein, parce que le coup de Prague c'est en 48, mais pour lui, la Tchécoslovaquie c'est déjà une porte d'entrée vers Moscou,
oui, oui.
C'est étrange. Justement, votre dernière réflexion sur Nezval, donc qui en fait est mis un petit peu à part hein, du groupe surréaliste tchécoslovaque, me fait penser à ma question suivante. En fait, c'est que deviennent justement ces surréalistes tchécoslovaques après 48 et après le coup de Prague, parce que finalement, on pourrait dire que si eux ne s'engagent pas dans cette lutte prolétarienne et de lutte des classes, contrairement peut-être à Nezval, ils sont peut-être persona non grata au sein du nouveau régime.
Oui aussi. En fait, il y a Toyen et Chtchersky sont partis en France après la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce qu'ils étaient effectivement pas la bienvenue ici. Je sais que Karel Tej est mort dans des conditions un peu troubles, certainement justement à cause de ces
de ses prises de position.
Voilà, de ses prises de position. Merci. Mmh. Et oui, le surréalisme tchécoslovaque, c'est vraiment intéressant la façon dont il s'est développé, parce qu'il se développe vraiment en fonction de l'histoire. Il n'y a pas de continuité. C'est que des. Comme s'il était sous l'eau tout le temps et qu'il pouvait prendre des bouffées d'air de temps en temps et exploser à certains moments, comme l'entre-deux-guerres, ça vraiment, c'est une période d'explosion du surréalisme tchécoslovaque, et c'est comme ça par petites bouffées d'air qu'il existe. Mais en souterrain, il y a même pendant la guerre, il y a toujours eu des échanges avec les Français, on ressent cette chose-là qui est vraiment oppressée finalement, et qui permet aussi cette création en jaillissement comme ça.